Bonjour à tous, je m'appelle Edith, je suis élève en classe de première S au lycée Raoul Follereau et je suis en compagnie de Céline et Elora qui sont toutes les deux en classe de seconde, mais je vais laisser Elora vous expliquer la raison de notre présence ici.
Alors nous nous retrouvons ici pour une nouvelle émission spéciale Fête de la Science, puisque c'est la 21e édition de la manifestation qui a lieu dans toute la France, avec pour objectif de la mettre à la portée de tous.
Effectivement, Elora, et nous sommes en compagnie aujourd'hui de Sandrine Goffinet, qui est enseignante-chercheure à l'Université de Bourgogne et à l'École d'ingénieurs à Dijon.
Madame Goffinet, bonjour.
Bonjour.
Donc, que pensez-vous de l'existence de cette fête de la science et des différentes manifestations proposées à cette occasion?
Bah, la fête de la science, je peux en dire que du bien, puisque bon, ça fait un certain nombre d'années que j'y participe, puisque je trouve que c'est vraiment une opération formidable pour deux raisons. Une, ça permet d'ouvrir et d'apporter beaucoup d'informations, d'expériences, etc., aux gens qui sont intéressés par les sciences, qui sont pas forcément des scientifiques. Et la deuxième chose, c'est que ça peut aussi créer des vocations, c'est-à-dire par des collégiens, des lycéens, ou même dans les écoles primaires, des opérations ont lieu, et de ce fait, ces élèves, finalement, peuvent se dire, tiens, je suis fait pour les sciences, j'adore les sciences, je veux faire des sciences, et pour nous, c'est aussi la deuxième chose qui est très, très valorisante. Donc, un, intéresser le public, intéresser les gens, deux, créer des vocations.
Participez-vous souvent à ce type d'événement?
Oui, donc comme je le disais, ça fait, je saurais pas dire combien d'années, j'ai participé déjà à la fête de la science quand j'étais étudiante, je participais à ce qu'on appelait les villages des sciences, hein, qui existent toujours, où on faisait des petites expériences interactives. Pour le public qui passait le week-end nous voir. Donc je pense que ça doit faire à peu près 15 ans que je participe à la fête de la science.
Pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste votre métier?
Alors, comme vous l'avez dit, je suis enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne. Donc mon métier comporte en deux parties. Donc, j'enseigne à l'université et aussi dans une école d'ingénieurs en matériaux qui est les IREM. Et je suis chercheur dans un laboratoire de recherche associé au CNRS, qui est le laboratoire interdisciplinaire Carnot de Bourgogne, qui est à Dijon. Voilà, donc tous les enseignants-chercheurs de toutes les universités ont ce double rôle.
Et qu'est-ce qui différencie vraiment en fait une école d'ingénieurs des poursuites d'études en sciences à l'université?
Elles peuvent être très voisines. C'est-à-dire que bon, l'université initialement avait pour vocation quand même de former des enseignants et des chercheurs, mais de plus en plus de formations professionnelles ou professionnalisantes sont dispensées à l'université. C'est-à-dire que vous avez des masters professionnels, vous avez des diplômes universitaires professionnels, des licences professionnelles qui sont créées au sein des universités. Vous avez l'école d'ingénieurs, donc comme son nom l'indique, forme au métier d'ingénieur. Mais parallèlement, pendant leur formation d'ingénieur, des élèves d'ingénieurs peuvent aussi suivre des masters à l'université. C'est-à-dire que ça peut être des formations qui sont complémentaires, qui peuvent emmener au même métier par des voies un peu différentes, avec des passerelles de l'un à l'autre. Mais en ce qui concerne les enseignants, ce sont les mêmes qui enseignent. Là, je parle pour l'université de Bourgogne, mais c'est un peu comme ça pour toutes les universités de province. Ce sont les mêmes enseignants qui enseignent à la fois à l'université et à l'école d'ingénieurs.
D'accord.
Qu'est-ce qui vous intéresse, vous passionne dans ce métier?
Ce qui me passionne, c'est déjà les rencontres qu'on peut faire à tous les niveaux, c'est-à-dire que les rencontres avec les étudiants, avec les autres scientifiques, avec les industriels, donc les gens du privé, même avec le public, et des rencontres qui amènent quelque chose personnellement et aussi scientifiquement. Voilà, c'est finalement toujours avoir les possibilités de progresser, et la recherche est quand même quelque chose de passionnant. Quand on fait quelque chose pour avoir une réponse, on a envie de savoir tout de suite. On est toujours très précis. intéressés, ça nous porte. Et à l'origine, quand je suis rentrée à l'université, c'était pour faire de l'enseignement. Et j'ai découvert la recherche après, donc je suis contente de pouvoir concilier les deux.
D'accord.
Est-ce que l'on rencontre beaucoup de femmes dans votre domaine de recherche ?
Oui, de plus en plus. Quand j'ai débuté dans mon domaine de recherche, il me semble qu'il y avait très peu de femmes. Enfin, c'est l'impression que j'en avais. Je pense que maintenant, il y a quasiment autant de femmes que d'hommes.
Qu'est-ce qui, d'après vous, est à l'origine de cette inégalité entre femmes et hommes dans la recherche ?
C'est-à-dire que ça dépend des domaines de recherche. Ça dépend vraiment des domaines de recherche. C'est-à-dire que les femmes vont plus s'orienter, on va dire, vers ce qu'on appelle un peu la chimie fine, les hommes plutôt, on va dire, vers la physique, la chimie physique, la mécanique. Je pense que c'est ancré dans les générations, que c'est en train de changer. Mais voilà, je pense que bon, c'est assez ancestral, mais c'est en train d'évoluer.
D'accord.
Quel a été pour vous l'élément déclencheur dans vos études sur le choix de ce métier ?
J'ai honte à le dire. Non, j'ai pas honte du tout. En fait, quand j'ai fait mes études universitaires, j'ai raté un semestre. Et quand j'ai raté ce semestre, ça m'a permis de faire des mini-stages dans les laboratoires de recherche. Mmh. Ce qui m'a permis de découvrir le monde de la recherche. Voilà. Et c'est ce qui m'a dit, ce qui m'a fait dire que je voulais faire ça.
Quel conseil pourriez-vous donner aux filles pour réussir leurs études post-bac dans le domaine des sciences ?
J'ai pas de domaine de conseil à donner puisque je vois pas pourquoi j'aurais plus de conseils à donner à une fille qu'à un garçon. C'est-à-dire, il y a autant de chances pour l'un comme pour l'autre de réussir des études scientifiques. Moi, je ne vois pas la différence. C'est-à-dire, même dans le monde du travail, je pense qu'il y a de moins en moins de différence. Ce qu'il faut, c'est que les filles le fassent. Justement, faut pas se dire je suis une fille, je pourrais pas le faire. Franchement, il faut pas du tout voir les choses comme ça. Qu'on soit une fille ou un garçon, on a autant de chances de réussir ses études post-bac. C'est-à-dire, je n'ai vraiment pas plus de conseils à donner à une fille qu'à un garçon.
Donc revenons au sujet de votre conférence, la prise du ciment et plâtre, une histoire de micro et nanoparticules. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle des micros et des nanoparticules ?
Alors c'est facile, c'est une question de taille. Donc des microparticules, ce sont des particules qui ont une taille du micromètre. Alors un micromètre c'est quoi ? C'est un millième de mètre. Voilà. Et des nanoparticules, sont des particules qui ont des tailles de l'ordre du nanomètre. Et là, c'est un milliardième de mètre. Voilà. Donc, il y a une différence. On passe de l'un à l'autre par un fois mille en taille.
D'accord, merci.
Quels sont les objectifs de recherche sur le ciment ou le plâtre? Et quels sont les enjeux de vos recherches?
Alors, moi, je suis une physico-chimiste, c'est-à-dire que je fais principalement de la chimie, c'est-à-dire que j'étudie les réactions chimiques qui ont lieu quand on met du ciment dans l'eau, parce qu'en fait, il y a des réactions chimiques entre le ciment et l'eau. Grâce à ces réactions chimiques, le ciment va prendre et va durcir. En étudiant ces réactions chimiques, d'une part, on cherche à comprendre les choses, parce que quand on les comprend, eh ben, on les maîtrise mieux. Voilà, et ce qui peut aussi permettre de faire de nouveaux ciments, de nouveaux matériaux, de nouvelles molécules qui vont être utiles pour améliorer finalement le matériau, sa résistance, tout ce qui est autour des propriétés du matériau dans le bâtiment ou autre. C'est, de toute façon, les recherches sont faites pour comprendre et pouvoir améliorer.
D'accord. Et comment se passent vos recherches dans ce domaine ? Enfin, vous travaillez seul, en équipe ?
La recherche se fait jamais seule. C'est toujours un travail d'équipe. Et quand on est enseignant-chercheur, on a finalement très peu le temps de faire nous-mêmes de la recherche. On devient des encadrants de la recherche. Voilà. Donc on dirige, si vous voulez, de la recherche. Donc ça se fait principalement par des étudiants qui préparent un doctorat, qui préparent un master. Et c'est eux vraiment, je peux pas le cacher, qui font les expériences. Et nous, on est là pour les guider. Voilà. Donc mon métier est vraiment devenu de l'encadrement de la recherche.
D'accord. Donc, est-ce que vous êtes souvent en train de faire des expériences ou des tests sur de nouveaux matériaux ?
Donc, comme je vous l'ai dit, c'est pas souvent moi. Donc, souvent, j'emmène les idées et pour effectivement faire de nouvelles expériences, trouver de nouveaux matériaux, chercher des nouvelles techniques expérimentales qui vont nous aider. Voilà. Donc, ça m'arrive quelquefois. Ponctuellement de faire des expériences, et dans ces cas-là, j'en suis ravie puisque je n'ai plus vraiment le temps de faire ça moi-même.
D'accord. Est-ce que vos recherches dans le domaine des nanomatériaux peuvent aboutir à une création sur de ciment ou de plâtre encore plus performant, plus résistant à des tremblements de terre, par exemple ?
Pas mes recherches personnelles, mais on va dire les recherches de la communauté scientifique dans le domaine vont effectivement amener à ça. Parce que, pour vous donner un exemple, actuellement, dans notre équipe de recherche, on cherche à faire un matériau plus résistant à ce qu'on appelle la traction. La traction, c'est quand on tire sur un matériau. Parce que un ciment, c'est très résistant en compression. Donc quand on appuie dessus, mais quand on tire dessus, c'est pas très résistant. Et effectivement, pour tout ce qui est pour tremblement de terre, séisme, etc., il faut que ces ciments soient résistants à la traction. Donc on cherche actuellement à créer des molécules qu'on peut mettre dans la pâte des ciments qui vont faire que ces ciments vont pouvoir être résistants de cette façon-là. Donc voilà, par exemple, un exemple de domaine de recherche actuel qui commence à faire des bâtiments de plus en plus résistants.
D'accord. Nous vous remercions, Madame Goffinet, d'avoir accepté de répondre à nos questions.
C'est moi qui vous remercie
d'avoir
m'avoir invité
à cette fête de la science au sein du lycée Raoul Follereau.
Eh bien, je vous remercie.
Et merci à nos auditeurs de nous avoir écoutés sur Bac FM 106.1.
Au revoir, Madame
Goffinet.
Au revoir à vous.